Lizzie présente La Cité de Feu de Kate Mosi, lu par Fabienne Loriot. Comme toujours, à mes chers Greg, Martha et Félix, et également à ma merveilleuse belle-mère, Granny Rosie. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. L'Ecclésiaste 3, 1, 8, traduction Louis Segond. Note au sujet des guerres de religion. Les guerres de religion sont une succession de guerres civiles qui, après des années de tensions, débutèrent le 1er mars 1562 avec le massacre à Vassy de huguenots désarmés par les forces catholiques de François, duc de Guise. Elles prirent fin le 13 avril 1598 avec la signature de l'édit de Nantes par le roi protestant Henri IV de Navarre, après la mort ou l'exil de plusieurs millions de personnes. Le plus célèbre des affrontements de cette époque est le massacre de la Saint-Barthélemy qui se déroula à Paris le 24 août 1572. Mais il y eut quantité d'événements semblables d'un bout à l'autre de la France avant et après cette date, notamment à Toulouse du 13 au 16 mai 1562 où plus de 4000 personnes trouvèrent la mort. L'édit de Nantes, lorsqu'il arriva, était moins le reflet d'un désir sincère de tolérance religieuse que l'expression d'un épuisement général et d'une impasse militaire. Il apporta une paix sans conviction à un pays qui, à force de se déchirer sur des questions de doctrine, de religion et de souveraineté, était presque au bord de la faillite. Louis XIV, petit-fils d'Henri IV, révoqua l'édit de Nantes à Fontainebleau le 22 octobre 1685, précipitant l'exode des Huguenots, résidant encore en France. Les Huguenots ne représentèrent jamais plus du dixième de la population française, mais leur influence fut significative. L'histoire du protestantisme français s'inscrit dans celle, plus vaste, de la réforme en Europe. Du placardage par Martin Luther de ses 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg, le 31 octobre 1517, à la dissolution par Henri VIII d'Angleterre des monastères, qui commença en 1536, et à la création par le missionnaire évangélique Calvin, en 1541, d'une terre d'asile pour les réfugiés français à Genève, suivie de celle proposée aux réfugiés protestants à Amsterdam et à Rotterdam à partir de la fin des années 1560. En France, les principales questions en jeu étaient le droit de vénérer le Seigneur dans sa propre langue, le refus du culte des reliques et de l'intercession, une attention plus rigoureuse aux mots de la Bible elle-même et le désir de pratiquer sa foi dans la simplicité, selon les règles de vie établies dans les Saintes Écritures. Le rejet des excès et des abus de l'Église catholique, révoltant aux yeux d'un si grand nombre, et enfin la nature de l'hostie, phénomène de transsubstantiation ou de consubstantiation. Pour la plupart des gens, cependant, ces points de doctrine étaient abstraits. Il y a quantité d'excellents ouvrages historiques sur les Huguenots, et cette petite communauté eut une influence extraordinaire à travers une diaspora qui en amena les membres, des réfugiés hautement qualifiés, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre, au Canada et en Afrique du Sud. La Cité de Feu est le premier tome d'une série de romans dont l'action se déroule sur 300 ans d'histoire, de la France du XVIe siècle à l'Afrique du Sud du XIXe siècle. Les personnages et leurs familles, sauf indication contraire, sont imaginaires, bien qu'inspirés du genre de personnes qui auraient pu vivre à cette époque. Des femmes et des hommes ordinaires, luttant pour vivre, aimer et survivre sur fond de guerre de religion et d'exode. Certaines choses ne changent pas. Prologue. Franz Hook, 28 février 1862. La femme se tient debout, seule, sous un ciel d'un bleu cru. Cyprès verts et herbes rêches bornent le cimetière. Les stèles grises sont devenues blanches comme de l'os sous le redoutable soleil du cap. Hir rust. Si j. Elle est grande et possède les yeux caractéristiques des femmes de sa famille depuis des générations, même si elle ne le sait pas. Elle se penche pour lire les noms et dates inscrits sur la tombe, à moitié occultée par du lichen ou de la mousse. Entre son haut col blanc et le bord poussiéreux de son chapeau de cuir, la peau pâle de sa nuque est déjà rougie. Le soleil est trop fort pour son teint d'européenne, et cela fait des jours qu'elle chevauche à travers le veld. Elle ôte ses gants, les pliant l'un dans l'autre. Elle en a trop perdu pour se montrer négligente, et par ailleurs, comment ferait-elle pour s'en procurer une autre paire? Il y a 2 magasins généraux dans cette hospitalière ville frontalière, mais il ne lui reste plus grand-chose à proposer en échange, et tout l'argent de son héritage a disparu, englouti dans le financement de son long voyage de Toulouse à Amsterdam, puis d'Amsterdam au Cap de Bonne-Espérance. Elle a dépensé jusqu'à son dernier franc pour se procurer provisions et lettres de recommandation, chevaux et hommes de confiance pour la guider à travers ce pays inconnu. Elle laisse tomber les gants à terre devant ses pieds. Un nuage de fine poussière rouge cuivre du cap s'élève, puis retombe. Un scarabée noir cuirassé et résolu court trouver un abri. La femme prend une inspiration. Enfin, la voici arrivée à destination. Elle a suivi cette piste depuis les rives de l'Aude, de la Garonne et de l'Amstel, par-delà les mers les plus démontées, jusqu'à ce cap où l'Atlantique rencontre l'océan Indien. Parfois, la piste était éclatante comme une traînée de feu. L'histoire de 2 familles est d'un secret transmis de génération en génération. À sa mère par sa grand-mère, et avant ça encore, à son arrière-grand-mère par la mère de celle-ci. Leurs noms ont été perdus, évincés par ceux de leur mari, frères et amants, mais leur esprit survit en elle. Elle le sait. Enfin, sa quête s'achève ici. À Franz Hook. Sigi. La femme ôte son chapeau de cavalière et s'évente, déplaçant l'air torride à l'air du large bord en cuir. Elle n'en tire aucun répit. Il fait chaud comme dans un four et ses cheveux de lin sont assombris de sueur. Elle se soucie peu de son apparence. Elle a survécu aux tempêtes, aux atteintes à sa réputation comme à sa personne, au vol de ses biens et à la perte d'amitié qu'elle avait crue impérissable. Tout cela pour arriver jusqu'ici. Dans ce cimetière mal entretenu de cette ville frontalière. Elle déboucle sa sacoche de sel et plonge la main à l'intérieur. Ses doigts effleurent la petite Bible ancienne, un talisman qu'elle garde avec elle pour se porter chance. Mais c'est le journal intime qu'elle sort. Un volume en cuir doux de couleur brun clair, tenu fermé par un mince cordon qui en fait 2 fois le tour. À l'intérieur, des lettres et des cartes dessinées à la main, un testament. Certaines pages se sont détachées et leurs coins saillent comme les pointes d'un diamant. C'est le récit de la quête familiale, l'analyse méthodique d'une querelle héréditaire. Si elle ne s'est pas trompée, ce carnet datant du XVIe siècle est le moyen pour elle de revendiquer ce qui lui revient de droit. Après plus de 300 ans, la fortune et la réputation de la famille Joubert vont enfin être restaurées. Justice sera faite. Si elle ne s'est pas trompée. Pourtant, elle ne peut se résoudre à regarder le nom sur la stèle. Souhaitant savourer un peu plus longtemps ce dernier instant d'espoir, elle préfère ouvrir le journal.